mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce jeudi 27 novembre. Allez, on commence sans sommaire cette fois-ci. Des nouvelles de notre très cher Nicolas Sarkozy qui vient de sortir de prison, a sorti un bouquin et bim, dans l'affaire Big Malion, la Cour de cassation confirme sa condamnation. L'enquête a en effet montré que la campagne, donc sa campagne présidentielle à l'époque, avait largement dépassé le plafond légal, qu'il avait utilisé un système de double facturation qui s'est répercuté sur l'UMP, aujourd'hui les Républicains, tout ça pour en masquer le coup. Donc voilà, un nouvel essai judiciaire à peine sorti de prison pour Nicolas Sarkozy. La Cour de cassation se prononce donc en défaveur de son recours dans son affaire Big Malion, une des, je ne sais pas combien il a d'affaires qui le poursuivent. C'était donc son ultime recours judiciaire dans ce cas-là, donc une condamnation qui devrait être effective. La condamnation pénale est désormais définitive. Ça fait sa seconde peine définitive, hein, puisque vous savez que celle de l'affaire des écoutes lui avait aussi valu une condamnation. Pour Big Malion, c'était le 14 février 2024 qu'il avait été condamné par la Cour d'appel de Paris à un an de prison, dont 6 mois ferme, pour financement illégal de sa campagne présidentielle, qu'il avait perdue en 2012. Les investigations du dossier ont révélé donc, que pour masquer l'explosion des dépenses de frais de sa campagne, soit 43 millions d'euros, hein, normalement c'est 22,5 maximum, eh bien, il avait fait un système de double facturation, ce qui imputait à l'UMP, sous couvert de conventions fictives, une grosse partie du coût des meetings. Contrairement à ses co-prévenus, l'ancien chef de l'État n'était pas mis en cause pour ce système de fausses factures, mais comme bénéficiaire, en tant que candidat d'un financement politique illégal. En première instance, il avait contesté vigoureusement toute responsabilité pénale, parlant de fables et de mensonges. Sa peine en appel, dont la Cour avait ordonné l'aménagement pour ce qui était du ferme, hein, bracelet électronique, semi-liberté, était inférieure à celle d'un an d'emprisonnement, qui avait été prononcé en première instance en 2021. Et donc en décembre 2024, la Cour de cassation avait donc rendu définitive sa condamnation d'un an de prison ferme sous bracelet électronique. Là, c'était pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Et dans celle des financements libyens, qui sera jugée en appel au printemps, hein, c'est pas fini, l'ancien président a déjà été incarcéré. C'est ces fameuses 3 semaines qu'il a passées à la santé, ce qui était quand même inédit comme détention pour un ancien président dans l'histoire de la France et qui a suscité de vifs débats, même si celui-ci a réussi à faire encore de la pub grâce à tout ça. Aux États-Unis, c'est le DOGE qui dégage, le département de l'efficacité gouvernementale, DOGE, qui a été créé par Donald Trump en janvier et confié à Elon Musk, pour tenter de réduire la taille de l'administration fédérale, eh bien, c'est fini. C'est l'agence de presse Reuters qui l'a confirmé ce mardi, avec une déclaration de Scott Cooper, qui l'affirmait, le directeur de l'OPM, l'Office of Personnel Management. Ces équipes du DOGE, vous en rappelez sûrement, elles ciblaient des agences fédérales jugées nuisibles à la prospérité des États-Unis, c'est-à-dire en gros toutes celles impliquées dans la protection sociale ou de l'environnement. L'objectif, réduire drastiquement les effectifs, diminuer les budgets et réorienter les missions des agents, conformément aux priorités de Donald Trump. Il faut rappeler que je vous avais parlé que notamment dans la recherche scientifique, il était censé être interdit d'utiliser d'autres mots que « homme » et « femme » pour parler de genre. Elon Musk, très actif toujours sur son réseau social X, n'a cessé de vanter les prétendus succès du DOGE, mais hein, il s'était même exhibé une tronçonneuse à la main, à la manière de Milley, en février, pour symboliser la réduction des effectifs dans la fonction publique. Et bien pourtant, au printemps, et bien, ce dernier avait mis fin à son statut d'employé spécial du gouvernement, vu que sa boîte Tesla se cassait la gueule aussi. Voilà, normalement, le DOGE était censé durer jusqu'au 4 juillet 2026. Sa mission, finalement, s'est arrêtée 8 mois plus tôt, et en termes des économies réalisées, vu le coût de l'entreprise, ils ont plutôt coûté de l'argent encore aux États-Unis. Et enfin, juste un petit complément par rapport à ce que je vous ai raconté mardi sur l'affaire de cette dessinatrice de bande dessinée italienne qui a été refoulée depuis l'aéroport de Toulouse alors qu'elle venait dédicacer son ouvrage au festival de Colomiers. La raison précise n'a toujours pas été donnée à Elena Mistrello, c'est son nom, mais elle avait reçu, je vous le disais, dans l'avion une sorte de procès-verbal qui lui signifiait qu'elle représentait une menace grave pour l'ordre public français. A priori, la seule chose qui puisse lui venir à l'esprit par rapport à la France, c'est qu'en 2023, elle a participé, avec de nombreux autres, aux commémorations des 10 ans de la mort de Clément Méric. Le meurtre de Clément Méric, ce jeune antifasciste assassiné alors qu'il était âgé de 18 ans par 3 extrémistes de droite. C'était dans une rixe dans le centre de Paris, c'était pris un coup de poing américain. Malgré l'absence de tension lors de l'hommage à Clément Méric, plusieurs ressortissants italiens qui étaient là pour honorer sa mémoire avaient eu ensuite des soucis aux frontières. Donc elle a certainement été contrôlée et c'est là que sa fiche visiblement a été instruite. Et à sa connaissance, en tout cas, c'est la première à subir une telle interdiction du territoire. En tout cas, face à la gravité de cette affaire quand même, l'illustratrice va maintenant tirer au clair les raisons précises de l'interdiction avec des personnes compétentes de manière juridique. Essayer un petit peu d'aller tirer les verres du nez du côté de la police ou de la justice. Et le SNAC, le Syndicat National des Auteurs et Compositeurs, lui a interpellé le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, avec ces mots, de par les règles établies au sein de l'Union européenne et de l'espace Schengen, dont nos deux pays, France et Italie, font partie, souhaitez-vous faire valoir qu'écrire ou dessiner des livres pourrait dorénavant motiver de tels actes d'autoritarisme, c'est-à-dire d'empêcher la liberté de déplacement des citoyens et citoyennes européennes ?
Une dictature, comme vous y allez. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
Des nouvelles du monde.
Du nouveau, dans le dossier de la 69, le chantier donc, de cette autoroute Toulouse-Castres, toujours remis en question, mais qui avance toujours. Ce chantier déborderait d'une quarantaine d'hectares. Par rapport en tout cas à ce qui était autorisé. C'est France Inter qui vient de le révéler ce matin. Ça fait un dépassement d'environ 10% des limites autorisées. D'après aussi le collectif d'opposants La Voix est libre, qui se base sur des photos prises sur place ou d'images satellites, plusieurs sites de ce chantier entre Toulouse et Castres empiéteraient donc sur des parcelles non déclarées dans le dossier de demande d'autorisation environnementale que l'État a délivré, et France Inter donc se fait l'écho de cette info ce matin. Les zones représentent en tout 42 hectares sur les 430 hectares que représente le chantier, donc environ 10%. Avec ces images satellites, France Inter explique avoir donc confirmé que 87% des surfaces identifiées par le collectif La Voie est libre se situent en effet en dehors du tracé qui est validé par les autorités. D'ailleurs, plusieurs propriétaires de ces terres auraient été contactés ces derniers mois par le concessionnaire Atosca qui voulait leur racheter de nouvelles parcelles. Auprès de la radio, Geoffrey Tarou, qui est le porte-parole de La Voie est libre, lui parle d'un chantier hors de contrôle et totalement à la dérive. Il explique qu'un quart du dépassement donc, de ces surfaces se ferait sur des zones qui étaient destinées à accueillir des mesures dites de compensation environnementale. Donc normalement, là où par exemple on va remettre une mare, ben là finalement, visiblement, il passe plutôt le tractopelle. Donc des zones qui devraient être aussi reboisées ou qui ont été, donc, en réalité, vous l'aurez compris, détruites par le chantier. Atosca, justement, s'est expliqué au micro de France Inter hier, enfin au téléphone. Ils ont dit que les surfaces concernées correspondaient à des opérations autorisées ou ponctuellement à des adaptations mineures et que leur impact était dans tous les cas pris en compte dans les mesures compensatoires du projet. Donc j'imagine qu'ils vont certainement payer pour refaire des surfaces ailleurs. De son côté, la préfecture du Tarn, qui a validé quand même ce projet, dit contrôler en continu l'exécution du chantier et qu'en cas de non-respect des prescriptions, cela fera l'objet d'une action administrative. Donc voilà, ils en sont au moins informés. L'avocate Alice Terrasse, qui est l'avocate d'une des associations de ses opposants à l'autoroute, annonce son intention de saisir la ministre de la Transition écologique, justement, pour lui demander de lancer sans délai une mission d'inspection confiée à l'IGEDD. C'est l'Inspection Générale de l'Environnement et du Développement Durable, et elle demande surtout de suspendre le chantier. La Voie est libre, le collectif d'opposants a également annoncé qu'il déposait une plainte pénale au pôle régional environnement du parquet de Toulouse. Donc voilà, toujours de la pression autour de ce chantier, sachant que la prochaine séance judiciaire a lieu ce 11 décembre. C'est la Cour administrative d'appel de Toulouse qui doit en effet tenir une audience décisive en examinant sur le fond donc sur le fond vraiment du projet, la validité de l'autorisation environnementale, qui remonte hein, maintenant, mais qui avait permis le lancement des travaux. Parce qu'en effet, cette autorisation environnementale avait été annulée par le tribunal administratif de Toulouse le 27 février dernier, donc victoire pour les opposants. Mais la cour d'appel avait depuis provisoirement autorisé la reprise du chantier avant de se prononcer donc, sur le fond, ce qui est quand même un comble. Mais le problème, c'est que la moitié des juges, des magistrats qui vont être présents ce 11 décembre dans cette commission pour juger de savoir si la 69 est illégale ou non, eh bien, ces magistrats se sont déjà prononcés en faveur de l'autoroute. Hein. Donc c'est un peu comme si les dés avaient déjà été lancés. C'est d'ailleurs ce que dénonçaient les opposants et les avocats quand ils ont appris la composition de ce comité. Plusieurs de ses membres hein, donc, de ce jugement ont déjà participé à l'audience qui avait réautorisé le chantier en mai de manière provisoire. Avec leurs avocats, donc les opposants dénoncent là une atteinte à l'état de droit. Ils réclament justement la récusation de plusieurs de ces magistrats de la Cour administrative de Toulouse et leur demande eh bien, sera étudiée demain, vendredi 28.
Je fais what ? Mais d'où ça sort quoi ? D'où ça sort ?
Et sur le recul des droits environnementaux, on part à l'Union européenne, hein, où les groupes d'extrême droite qui sont très forts n'ont jamais été aussi forts, eh bien, ne chôment pas, notamment sur ces questions. Le Parlement européen a donc approuvé hier le report d'une année pour l'entrée en vigueur d'un règlement sur la déforestation importée. Alors, c'est un texte qui doit interdire en Europe la commercialisation de produits qui génèrent de la déforestation, donc des produits issus des forêts tropicales déboisées après 2020. Donc on parle de là des cultures du cacao, du soja, du café, mais aussi du bois ou de l'huile de palme. Cette loi avait été présentée au début en 2022. Elle aurait dû rentrer en vigueur en 2024, mais justement son application avait été reportée une première fois, donc de 2024 à 2025. À l'époque, c'était déjà à cause des voix des eurodéputés de droite et d'extrême droite. La décision d'hier marque donc encore un deuxième report d'un an pour cette aile qui préfère visiblement privilégier le business mondial à l'environnement. C'est la deuxième fois en 15 jours d'ailleurs que l'extrême droite et la droite s'allient, se mettent ensemble pour affaiblir un texte environnemental. Puisqu'en effet, le 13 novembre dernier, ces deux groupes avaient aussi voté la directive Omnibus qui acte elle aussi plusieurs reculs sociaux et écologiques. Depuis qu'il a remporté de nombreux sièges aux élections européennes de juin 2024, le Rassemblement National est le parti d'Europe qui a le plus d'eurodéputés. Avec son groupe parlementaire qui s'intitule Patriotes pour l'Europe, il est le troisième plus important derrière les sociodémocrates et la droite. Et Jordan Bardella, en tant que leader de ce groupe, avait annoncé justement vouloir s'attaquer à toutes ces lois environnementales européennes en janvier 2025. C'est donc une nouvelle victoire pour l'extrême droite en ce jour du 26 novembre. À Montpellier, c'est une association qui lutte pour les droits notamment des gens du voyage, l'association AREA, qui voit ses financements complètement supprimés par l'État. C'est hier qu'on l'a appris, hein, le conseil d'administration de cette association humanitaire AREA, qui accompagne les personnes sans logement fixe, a organisé une conférence de presse d'urgence pour dénoncer l'arrêt de ses financements accordés par l'État, suite apparemment à cause de son rapport critique envers les institutions. Et la structure doit donc fermer ses portes fin décembre. Une décapitation brutale, ce sont les mots de José Lagorce, le président de cette association AREA. Depuis 10 ans, celle-ci accompagne des personnes qui vivent dans les bidonvilles autour de Montpellier et dans Montpellier. Une action qui prendra donc fin ce mois de décembre, faute des renouvellements des financements par la préfecture de l'Hérault. En janvier, ça sera donc 400 personnes qui étaient suivies par l'association qui se retrouveront sans accompagnement. Un appel à candidature devait être lancé ce mois d'octobre pour reprendre l'activité de l'association, qui est en liquidation judiciaire, mais rien n'a été publié à ce jour. Donc c'est plutôt un vide qui semble s'annoncer derrière son action. Les financements de l'État représentent 6 postes sur les 10 que comptait l'asso, et la perte du financement principal entraîne donc l'arrêt des autres subventions qui sont liées à la mission. C'est souvent comme ça. On n'est pas obligé de couper tout l'argent, mais couper le robinet principal, souvent suffit à faire tomber après comme des dominos les autres obtentions de subventions. C'est ce qu'explique Catherine Vassaud, hein, qui est la fondatrice d'AREA. Dans un courrier qui était daté du 30 septembre, c'est la DDETS, la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, qui reprochait en effet à cet asso de se positionner dans une posture critique des institutions à des fins d'amélioration continue de l'accompagnement des personnes. Cette posture continue la lettre à emmener à plusieurs reprises mes équipes, donc ça c'est la DDETS, à s'opposer à vos positions depuis plusieurs années, tout en acceptant de continuer à financer la mission d'accompagnement en vue de vos résultats. Donc visiblement, ils ont des bons résultats, mais le fait qu'ils s'y opposent justifie la coupe des subs. En plus de ça, les services de l'État désapprouvent une grève qui a été menée par les salariés d'AREA, c'était fin août de cette année. Ils s'opposaient ainsi aux expulsions qui étaient menées dans un bidonville, c'était avenue de Morin à Montpellier. Une décision politique, selon la fondatrice de l'association, qui déplore des sanctions administratives qui se généralisent contre des associations qui seraient trop critiques, qui seront en tout cas jugées trop critiques par l'État. L'État dit de nous qu'on est critique de l'institution, alors, dit-elle, qu'on rappelle juste le droit pour faire évoluer des situations face à des dispositifs créés par des gens de plus en plus éloignés du terrain. Et l'AREA revendique, en effet, en face de cela, une déontologie dans l'exercice du travail social. En gros, 10 ans de tension permanente entre la préfecture, l'État et cette association. Et le président actuel évoque notamment le principe de l'inconditionnalité de l'accueil dans des centres d'hébergement et le principe de réinsertion sociale qui n'aurait pas été respecté suite notamment à l'expulsion du bidonville avenue de Morin. Lors de cette expulsion, des gens se sont vus refuser une place car ils étaient en situation irrégulière et tout cela est contraire justement au droit. Et c'est ça que les équipes ont souligné. Il fustige aussi le système de liste de recensement avec date butoir en ce qui concerne les occupants des bidonvilles. Ce système de liste a été imposé par la préfecture. Donc en gros, passer la date butoir des personnes qui sont arrivées après le recensement sur un bidonville n'ont pas forcément de relogement au moment de l'expulsion puisqu'ils n'étaient pas sur la liste. Mais ils se retrouvent, eux, pour le coup, vraiment à la rue. Et de même, pour un autre point sur lequel ils se sont un petit peu pris le bec, la question d'un terrain de travail à mettre à disposition pour ces personnes, notamment pour des activités de recyclage. C'était en débat ces derniers mois avec les autorités, et donc on ne leur permet pas de faire de l'économie de subsistance, et derrière, les discours politiques déplorent une stagnation dans l'assistanat. Donc effectivement, un double discours pour, vous l'aurez compris, ces gens du voyage de bidonville. Un salarié de l'association AREA, qui s'appelle Antoine, qui est membre de la coordination du social contre les coupes budgétaires, lui, il analyse cette liquidation judiciaire comme un symptôme des politiques d'austérité qui touchent actuellement le secteur du travail social et ce, à l'échelle nationale. On nous dit que la décision est politique, mais notre grève et la réaction de la DDETS ne sont qu'un prétexte pour faire des économies dans le secteur. Il déplore également le fait qu'une partie des habitants des bidonvilles de Morin ont reconstruit un bidonville juste après l'expulsion et sans aucun suivi, on n'est même pas allé les voir pour connaître leurs besoins. Alors on termine avec quelques nouvelles du monde et du climat, des expulsions de CO2, de l'industrie, bref, tout ce qu'on adore. C'est donc dans les colonnes du journal Reporter, cette fois-ci, qu'on part. Tout d'abord, Amazon. Le géant Amazon n'avait jusqu'à aujourd'hui jamais révélé publiquement le nombre de ses data centers, les centres de données exploités pour l'entreprise. On les estimait entre 100 et 475. Eh bien, des documents exclusifs ont été obtenus par Source Material et Bloomberg. Et ce géant du numérique utilise en réalité 924 data centers dans le monde. Et ça, ce sont des chiffres de 2023, dont 29 en France. Selon donc ces données que Source Material a partagées, la consommation énergétique combinée de 17 de ces centres de données en France atteignait 7,5 millions de mégawattheures en 2023. C'est colossal. La société états-unienne a massivement investi dans ses data centers dans le monde entier pour développer des services d'IA, intelligence artificielle. Elle fait actuellement construire des centaines de centres de données à travers le monde pour rivaliser avec les investissements, là aussi, dans l'IA de ses concurrents Microsoft et Google. Donc voilà, en gros, ChatGPT, franchement, les gars, arrêtez, quoi. Et dans ce monde plastique, ça ruisselle beaucoup d'eau. Des typhons se sont abattus sur le sud-est de l'Asie. Des crues exceptionnelles, des typhons meurtriers. Depuis le début de ce mois de novembre, ils frappent l'Asie du sud-est. Ces derniers jours, c'est la Thaïlande qui a été touchée par des pluies torrentielles. Dans le sud du pays, les 150 000 habitants de la ville de Hat Yai ont subi des inondations qui ont atteint les 2 mètres de haut. Au moins 33 personnes ont perdu la vie, expliquait le gouvernement thaïlandais. Aux Philippines, c'est un typhon qui s'appelle Kalmaegi qui a causé la mort de 224 habitants, suivi de près par le typhon Fung Wong. Plus de 1,2 million d'habitants ont ainsi dû être évacués au début de ce mois. Et enfin, en Vietnam, des crues exceptionnelles se sont abattues sur la région montagneuse de Dak Lak. Cette ancienne capitale impériale de Hue a, elle, subi des cycles d'inondations. Au moins 409 Vietnamiens ont été tués dans ces événements climatiques. Allez, on termine avec une un peu meilleure bonne nouvelle, on va dire, en tout cas, des signes que les choses peuvent s'arranger plus facilement pour les écosystèmes, peut-être que pour nous. C'est dans les océans que l'on part avec cette nouvelle. Donc, suite à l'interdiction de la pêche, 60% de dauphins morts en moins ont été comptés en 2025 dans le golfe de Gascogne. C'est notamment grâce à la fermeture pendant l'hiver de la pêche dans le golfe de Gascogne que ces chiffres ont été obtenus. Ça a permis donc à réduire les captures de dauphins. C'est un bilan scientifique établi par l'observatoire Pélagis qui a été rendu public aujourd'hui, qui rapporte cette bonne nouvelle. Donc, entre le 22 janvier et le 20 février, sur une année, et c'est la deuxième année de suite, les navires de pêche de plus de 8 mètres qui utilisent des filets étaient interdits d'aller en mer. Cette mesure a donc, semble-t-il, porté ses fruits, hein, puisque le nombre de dauphins communs qui étaient morts étouffés dans les filets a diminué de 60%, si on se réfère aux moyennes des hivers allant de 2017 à 2023. L'observatoire Pélagis estime que 1900 dauphins sont morts par capture dans un engin de pêche en 2025. Avant 2024, donc avant cette interdiction, il y en avait 4700 par an. Donc c'est effectivement une grosse chute. Le ministère de la Mer a lui annoncé que la pêche serait de nouveau interdite pour les fileyeurs et les chalutiers de plus de 8 mètres pendant un mois pour l'hiver 2026. En 2025, cet arrêt temporaire avait représenté une perte nette d'environ 14,5 millions pour les navires concernés. Ils sont au nombre de 274 côté français. Les pêcheurs avaient d'ailleurs été indemnisés à hauteur de 80%. Et ces dispositifs d'aide devraient être renouvelés en 2026, assure en tout cas le ministère de la Mer. Ce ministère annonce d'ailleurs par ailleurs que les 110 fileyeurs vont être équipés de pingers. Ce sont des dispositifs acoustiques. Ping, hein, quand on voit des petites fréquences répétées, c'est censé repousser les dauphins. Mais cela dit, leur efficacité ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté scientifique. 27 autres de ces fileyeurs seront équipés de balises d'éloignement Dolphin Free, qui elles aussi sont censées alerter les dauphins communs de la présence d'un filet et donc du danger mortel qu'ils représentent. Pareil, en utilisant des signaux acoustiques qui correspondent à ce risque. Une centaine d'autres de ces bateaux fileyeurs, ainsi qu'une quinzaine de chalutiers, seront enfin équipés de caméras, annoncé le ministère. Les données collectées par ces caméras permettront notamment de statuer sur l'efficacité des outils et sur les suites à donner. Allez, il nous reste un petit peu de temps et comme je vous ai passé un Jimmy Cliff pas très connu la dernière fois, on a passé un autre mais qui est plus connu celui-là, c'était notamment dans le film The Harder They Come dont il a signé la bande originale puisque je vous rappelle que Jimmy Cliff s'est éteint il y a deux jours à l'âge de 81 ans. On écoute donc plutôt ces tubes de la première heure, j'avoue que je suis plutôt fan de ça que de Hakuna Matata ou autre roserie qu'il a fait après dans les années 80. Donc c'est The Harder They Come. Et puis je vous conseille d'aller voir le film si vous ne l'avez jamais vu du même titre. Allez, à la semaine prochaine, portez-vous bien. Look right. So
Des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.